Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
L'Asie et l'Égypte seront au cœur de ce magazine. Le père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a réagi après la révocation d'un évêque chinois, montrant que la route est encore longue sur le chemin d'une pleine liberté de conscience. Nous irons aussi au Vietnam, où s'est ouverte ce lundi pour la première fois l'Assemblée plénière des évêques catholiques d'Asie. En Égypte, l'Église copte souhaite rester neutre dans la crise politique et appelle à la sagesse. L'Égypte qui est frappée par une crise économique et sociale profonde. Nous entendrons une religieuse de Saint-Vincent de Paul qui dirige une école de filles. Elle est témoin d'un appauvrissement des Égyptiens. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le père Federico Lombardi s'est exprimé ce mardi devant des journalistes suite à la récente révocation d'un évêque chinois. Monseigneur Ma Dakin, évêque auxiliaire du diocèse de Shanghai, a été officiellement révoqué de son office par la Conférence des évêques de l'Église catholique de Chine, la structure non reconnue par Rome. Concrètement, la situation reste grave, souligne le père Lombardi. Plusieurs évêques et prêtres sont mis à l'écart et privés de leur liberté, comme dans le cas récent de cet évêque auxiliaire de Shanghai, Monseigneur Ma Dakin, après qu'il ait fait part de sa volonté de se consacrer à plein temps à son ministère pastoral, poursuit le père Lombardi, et a délaissé des charges qui ne sont d'ailleurs pas de la compétence d'un pasteur. Le contrôle des personnes et des institutions s'est renforcé et on note de plus en plus de pression et de sessions d'endoctrinement, relève le porte-parole du Saint-Siège. Face au manque de liberté religieuse ou quand celle-ci est fortement limitée, n'est-il pas du rôle de toute l'Église de défendre les droits légitimes des fidèles chinois et en premier lieu celui du Saint-Siège d'être la voix de ceux qui n'en ont pas ? S'est interrogé enfin le père Lombardi. Restons en Asie où la 10e assemblée plénière des évêques catholiques d'Asie s'est ouverte ce lundi. Pour la première fois, c'est le Vietnam qui accueille la Fédération des conférences épiscopales d'Asie, la FABC. Malgré les difficultés d'organisation liées aux engagements des évêques dans leur diocèse et la proximité de Noël, les participants se réjouissent néanmoins de la tenue de la réunion au Vietnam, signe d'une timide mais certaine ouverture dans le pays. Cette assemblée commémore aussi le 40e anniversaire de la fondation de la Fédération et constitue pour les évêques asiatiques une occasion de réviser la vie et la mission des églises en Asie, ainsi que fixer à nouveau les orientations pour l'avenir proche. Pour nous en parler, Régis Sanouille, il est le rédacteur en chef de la revue Église d'Asie.
C'est un événement à plusieurs titres. Il y a d'abord une petite péripétie, elle devait avoir lieu le mois dernier, et puis le mois dernier, il y a eu des nouveaux cardinaux, créés donc par Benoît XVI, et un certain nombre de ces cardinaux, 2 sur 6, venaient d'Asie, donc il a fallu reculer au dernier moment cette assemblée pour la déplacer donc à ce mois de décembre. Mais le plus important, c'est qu'elle a lieu au Vietnam que l'on sait donc être un pays communiste, toujours un pays de parti unique sous régime communiste, où l'Église est vivante, tout à fait vivante, 7% de la population, avec des ouvertures donc assez conséquentes pour que enfin cette réunion des assemblées épiscopales de l'Asie puisse se faire au Vietnam. C'est rien que le fait qu'elle ait lieu est significatif d'une certaine ouverture du Vietnam. Deuxième chose, c'est la réunion de 19 églises, 19 conférences font partie de la FABC. C'est donc une réunion de l'ensemble des églises en Asie, à travers leur diversité, mais également leurs points communs. Et là, sans doute, ce qui va être plus important, ou ce qui va être mis en avant, c'est les suites du synode pour la nouvelle évangélisation, les conséquences ou la mise en musique, pourrait-on dire, du synode pour la nouvelle évangélisation en Asie.
Alors justement, y a-t-il beaucoup de disparités dans les réalités que vivent ces différentes conférences épiscopales, ou bien elles ont plus de points communs ?
Il y a énormément de disparités, il ne faut pas le cacher, entre le Timor oriental, qui est un pays à 99% catholique, mais qui est tout petit, 1,2 million d'habitants, ou 1,4 million d'habitants en comparaison de l'Inde, plus d'un milliard d'habitants, là aussi où l'Église est tout à fait importante, mais très minoritaire, 2,3% de la population. On est donc à des horizons d'ordre de grandeur extrêmement différents, des cultures extrêmement différentes, des contextes humains, politiques, économiques très différents, mais malgré tout, il y a une certaine unité. C'est que, à l'exception des Philippines et du Timor oriental, où les catholiques sont majoritaires, les catholiques, les chrétiens de façon générale en Asie, sont très minoritaires. Donc ce fait minoritaire prime. L'autre fait immédiat, c'est que la religion est loin d'être en recul. Il y a bien sûr une sécularisation du fait de la mondialisation, du développement de ces sociétés, mais la religion prime, imprègne l'ensemble de ces sociétés et très profondément. Il ne s'agit donc pas de convertir, mais effectivement de proposer l'évangile à des populations qui sont au sein de cultures généralement très fortes, déjà en prise avec une religion majoritaire, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam.
Mais quels sont les défis pour ces églises d'Asie? Est-ce qu'ils sont plus politiques ou pastoraux?
Le défi est sans doute politique, dans la mesure où la religion, encore une fois, si elle est très présente, est très utilisée également en politique, puisqu'il y a une instrumentalisation, on peut dire, assez souvent de la religion en Asie à travers les conflits qui se font jour en Asie. Mais d'un point de vue plus pastoral, je retiendrai sans doute ce qu'a dit le cardinal Tagle, donc le nouveau cardinal qui a été créé cardinal en novembre dernier par Benoît XVI et qui est l'archevêque de Manille aux Philippines. Et il appelait l'Église à être humble, les serviteurs de Dieu à être humbles. Il y a donc dans son pays, et peut-être plus largement en Asie, une certaine propension effectivement à affirmer la place, la prééminence de l'Église et une certaine humilité en regard à mettre en avant pour que le message évangélique soit bien entendu par les populations en Asie.
Est-ce qu'on sait les thèmes qui seront abordés lors de cette assemblée plénière, les objectifs qu'elle se fixe?
Les thèmes sont toujours un petit peu langue de buis, si vous me passez l'expression, en ce sens qu'il n'est pas toujours aisé de discerner les enjeux qui sont à travers les thèmes choisis. Le premier jour, ce sera regarder le passé et rendre grâce. Le deuxième jour, ce sera discerner les signes du temps, demander le don de la sagesse. En troisième jour, méditer dans la foi sur la situation pastorale, demander le don de la direction spirituelle, et ainsi de suite. Donc vous voyez des intitulés relativement classiques, mais ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est cette volonté de réviser la vie et la mission des églises en Asie pour fixer les orientations de l'avenir proche, qui est celui de la nouvelle évangélisation.
Mais ces églises d'Asie sont-elles en expansion ou plutôt sur la défensive?
Elles sont plutôt en expansion, et loin d'être sur la défensive. Elles peuvent être sur la défensive dans la mesure où elles rencontrent des oppositions fortes, mais les églises en Asie sont tout à fait, non pas conquérantes, c'est absolument pas le terme qu'il faut utiliser, qui reflète les réalités, mais en expansion. Un des grands absents de cette FEDC sera la Chine, puisque la Chine, du fait de son contexte ecclésial particulier, de ce régime communiste qui est toujours en place à Pékin, ne peut pas envoyer de représentants à la FEDC, dans la mesure où il n'y a pas de conférence épiscopale reconnue par Rome, mais néanmoins, c'est un exemple d'une église en grande expansion. Le christianisme est en voie de devenir une des religions, sinon la religion la plus importante en Chine, dans la mesure où le christianisme, notamment sous sa forme protestante, mais également catholique, est très dynamique, et en tout cas très présent dans les esprits, au sein des universités, au sein des milieux intellectuels. Dans d'autres pays également, le christianisme est loin d'être en crise, dans la mesure où le christianisme attire à lui, plus sans doute que d'autres religions, les religions entre guillemets traditionnelles de cette région, qui pour certaines d'entre elles, traverse une crise.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Pour l'évêque de Xuan Loc, Mgr Nguyen Chun Trinh, cette assemblée est l'occasion de faire connaître aux Vietnamiens les églises asiatiques dont beaucoup ignorent l'existence. L'évêque dominicain explique que ces jours sont un motif de grande joie et que cet événement a suscité une importante attente dans le pays. Cette assemblée des évêques asiatiques se conclura le 16 décembre à Ho Chi Minh Ville, la capitale vietnamienne. L'Église brésilienne de nouveau menacée dans sa lutte pour les droits des indigènes. Mgr Pedro Casaldáliga, évêque émérite de São Félix, a dû se mettre à l'abri ces derniers jours après avoir reçu des menaces persistantes à cause de son soutien à la cause indigène. En cause, le verdict délivré par un tribunal qui rendra sa sentence dans les prochains jours et dont plusieurs sources indiquent qu'elle devrait être favorable aux indiens Xavante, dont les terres sont spoliées depuis des années. L'évêque à la retraite est en effet considéré par les ennemis des Xavante comme étant le responsable principal de ce verdict, car il a pris de longue date parti pour ce peuple aborigène. Le conseil missionnaire indigène et d'autres organisations du pays ont exprimé leur pleine solidarité à l'évêque, défenseur depuis toujours des intérêts des pauvres. Né en Catalogne en 1928, Mgr Casaldáliga est arrivé en Amazonie brésilienne en 1968. L'Égypte, on le sait, est en plein bouleversement politique. Depuis 3 semaines, le pays est coupé en deux entre le camp islamiste au pouvoir et les libéraux. Ces derniers exigent toujours l'annulation du référendum sur la constitution prévue pour le 15 décembre. Des manifestations pro et anti-Morsi avaient de nouveau lieu ce mardi, en particulier dans la capitale égyptienne. Le 9 décembre dernier, après avoir annulé le décret constitutionnel élargissant ses pouvoirs, le président Mohamed Morsi avait appelé au dialogue national pour apaiser un camp libéral qui lui est de plus en plus hostile. « Notre Église ne fait pas de politique », a répondu le patriarche copte Tawadros II, élu le 4 novembre dernier. Le message ne saurait être plus clair. Ces derniers jours, certains islamistes ont pourtant tenté d'entraîner les coptes sur le terrain politique, dénonçant même un complot de l'Église destiné à déstabiliser le pouvoir, au risque d'instrumentaliser le confessionnalisme. Mais l'Église souhaite rester en retrait. Olivier Tosserie.
Peu après son élection, Tawadros II avait souligné sa volonté de rester à l'écart de la politique, une manière de se démarquer de son prédécesseur Chenouda, qui n'avait pas hésité à soutenir parfois ouvertement le régime de Moubarak. Le chef spirituel des Coptes envisage son rôle comme éminemment spirituel. Lors d'une rencontre avec des journalistes de la presse étrangère fin novembre, il avait fait preuve de prudence sur les événements, pesant ses mots et considérant qu'il fallait avant tout prier pour l'Égypte. La position du patriarche n'est pas neutre. Pour autant, dans un pays où la parole s'est libérée depuis la Révolution, le pape invite ainsi les chrétiens à faire entendre leur voix, à condition que cela se fasse sans violence. Une ligne qui se retrouve sur Twitter. Depuis quelques jours, Tawadros poste des messages sur le réseau social à travers le livre des Proverbes. Le 5 décembre, le pape copte écrivait ainsi ce message. « Les yeux du Seigneur observent les voies de l'homme, il surveille ses chemins. » Autre message publié le 10 décembre. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Cette ligne du nouveau patriarche est très appréciée dans les milieux coptes, particulièrement les jeunes, qui manifestent en nombre contre le pouvoir islamiste. Elle se veut surtout un appel à la sagesse qui rassemble tous les Égyptiens dans un pays où les slogans politiques se radicalisent.
Si l'on se focalise sur les blocages politiques de l'Égypte, la situation économique et sociale du pays reste préoccupante et fait moins la une des médias. Le chômage est toujours élevé, les grèves ouvrières se multiplient et le coût de la vie augmente. Sœur Amira Ayoub dirige une école de filles dans le quartier d'Abbasseya au Caire, non loin de la mosquée Al-Azhar. Dans son école, plus de 500 filles sont scolarisées, de la maternelle à la terminale, des chrétiennes mais aussi des musulmanes. Pour Sœur Amira, les temps sont durs et les défis sont immenses, on l'écoute.
Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans travail, même des gens qui avaient un poste et qui travaillaient, qui sont renvoyés parce qu'on n'arrive plus à payer. Il y a de ceux qui sont payés moins que ce qu'ils méritent ou ce qu'ils doivent toucher. Et je le sens fortement. Et puis les tours enchérissent, la vie devient plus chère. Je le sens par nos employés, par les professeurs. On donne à 120 enfants à manger tous les jours. Et il y a des enfants qui viennent me dire, ma sœur, moi, on ne m'a pas laissé rentrer pour manger, alors qu'on avait choisi les plus pauvres. Je regarde leur sac, en effet, il y a un petit sandwich où il n'y a pas du tout. Alors ça pose. Je sens que les familles deviennent plus pauvres. On fait le manger pour 120, on a parfois 150, alors on essaye de partager un peu entre les enfants. Et puis on entend dire que dans 3 mois, si ça continue comme ça, il n'y a plus de blé ni de farine, et c'est inquiétant.
Comment vous expliquez que l'éducation a toujours été un problème en Égypte et que malgré les changements politiques, le nouveau gouvernement, il n'y a visiblement aucune mesure, aucune politique précise. Comment vous expliquez ça?
Vous savez, le renouveau est toujours difficile. C'est toute une machine à faire bouger, à faire pour approfondir. Alors, il comptait sur nos écoles. L'élite de la société, musulmans ou chrétiens, viennent des écoles des jésuites, du collège de la Salle, des écoles religieuses. Et là, ils sont tranquilles, voilà, il y a une partie qui est assurée, donc le gouvernement délaisse un peu les écoles du gouvernement, c'est lamentable. Nous avons des enfants de frères musulmans, mais ils ne sont pas d'accord avec ce qui arrive maintenant. Ils me le disent, hein. Et nous, on est frères musulmans, mais ce que le président a fait, ce qu'il a dit, il prend toute l'autorité et tous les pouvoirs et ça ne va pas. Et
justement, les enfants que vous scolarisez, ils parlent de cette révolution, ils parlent de politique, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Les enfants ne parlent pas, très peu. Très peu, les grandes parfois, mais non, ils ont peur parce que comme elles sont femmes et le rôle de la femme et sa place dans la société, etc., elles ont un peu peur qu'on les enferme, qu'on ne les laisse pas travailler, qu'on les voile.
Quel regard porte votre communauté sur tous les événements politiques qui ont lieu en ce moment même en Égypte? Vous êtes inquiète? Quelle est un peu votre analyse sur tous ces bouleversements?
Inquiète, nous sommes très inquiètes parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Si ça tourne musulman à 100%, ils peuvent peut-être attaquer les écoles. Déjà, ils attaquent parfois les églises. Ça peut être grave. Et si vraiment les libéraux arrivent à gagner du terrain et à se faire entendre, à ce moment-là, l'Égypte pourra peut-être trouver un équilibre. Donc on est inquiète, mais on n'est pas trop sûr de l'avenir à cause de l'inconnu. Personne n'arrive à savoir.
C'était Sœur Amira Ayoub, religieuse de Saint-Vincent-de-Paul au Caire. La pauvreté ne touche pas que l'Égypte, loin de là. En France, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté ce mardi des mesures pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Parmi ses propositions, le relèvement du RSA, il sera augmenté de 10% dès septembre 2013. Autre mesure, 50 millions d'euros débloqués pour créer 4000 places pour les sans-abri, 4000 autres aussi pour les demandeurs d'asile, ou encore un contrat d'insertion pour les jeunes qui leur permettra de bénéficier d'une allocation équivalente au RSA. Pour la Fondation Abbé Pierre, les mesures proposées par le gouvernement français sont positives, mais pour son délégué général, Patrick Doutreligne, ces efforts auraient pu être plus soutenus.
On s'attendait à plus parce que la situation, d'une part, s'est dégradée, que le contexte économique est en train de massacrer toute une partie de population et de faire basculer toute une autre partie, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui sont en train de basculer soit dans le chômage, soit dans la fragilité, soit dans des pertes de ressources. Parallèlement, tout augmente, les loyers augmentent beaucoup plus vite, les charges de façon extraordinairement importante ces dernières années, ça ne s'arrête pas. On regrette un petit peu des objectifs qui sont ou pas déclarés, ou en tout cas pas très ambitieux, même si l'inflexion va dans le bon sens, ça manque un petit peu d'ambition.
Qu'est-ce qui manque alors d'après vous? Qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus?
Une ambition avec des objectifs chiffrés, c'est-à-dire que voilà, si on part sur un plan quinquennal, on aurait voulu savoir qu'est-ce qu'on se donne l'objectif, de limiter 50% le nombre de gens en difficulté d'ici 5 ans, de dire qu'il y aurait dans 5 ans autant de places en hébergement et en logement qu'on a de personnes qui sont aujourd'hui à la rue et donc il y aurait une garantie. Voilà, c'est les mesures techniques les unes après les autres sont plutôt positives, sont dans un contexte économique difficile, sont intéressantes, mais même si elles manquent un peu d'ampleur. Mais c'est surtout la vision politique et stratégique dans 5 ans, puisque le président de la République a dit qu'il voyait une inflexion du chômage, qui se donnait 5 ans, que c'était la durée d'un mandat qu'on jugeait. Voilà, eh bien, on aurait bien voulu voir où est-ce qu'il souhaitait nous emmener dans 5 ans sur le sujet des plus modestes et des défavorisés.
Il vous manque en fait une vision à long terme du gouvernement socialiste.
Oui, très clairement, des engagements, y compris des engagements financiers dans la durée, en disant on aurait accepté un engagement financier qui aurait dit, voilà, c'est tant les 2 premières années et ce sera plus s'il y a un retour à meilleure santé économique et budgétaire de notre pays. Mais en tout cas, quelque chose qui donne de l'espérance, du souffle et de l'ambition. Et là, aujourd'hui, on a juste la satisfaction de voir qu'une partie des mesures qu'on a proposées est reprise et que, de nouveau, on s'oriente vers des aspects plus positifs, y compris sur le regard qu'on a sur les exclus et les pauvres de notre société, qui depuis 10 ans étaient un peu considérés ou comme des parasites ou des assistés et non pas comme des victimes et comme des gens qui pouvaient se reprendre en main.
Vous parlez d'un changement de regard. Qu'est-ce qui a changé entre l'ancien gouvernement et celui de Jean-Marc Ayrault?
On a eu les crises économiques qui se sont succédées et ces dernières années, entre guillemets, une culpabilisation autour des personnes qui étaient victimes de ces aspects-là, mais qu'on rendait un peu responsables. C'est parce qu'ils ne se levaient pas assez tôt, c'est parce qu'ils n'étaient pas courageux, c'est parce qu'ils ne savaient pas s'adapter à la société moderne. Nous qui sommes au contact de ces personnes-là, on sait bien que c'est pas vrai, que c'est difficile et que justement ce qu'ils ont besoin, c'est plus d'une aide, d'un soutien et d'un coup de pouce que d'un jugement négatif. Donc ça on sent très nettement que dans le discours, dans la volonté politique, dans le regard qui est porté, des choses ont changé.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.